La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Green Solution, émission coproduite par Radio Immo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Durosel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur associé de WAO Architecture. Et nous allons parler ensemble d'un projet, le projet Javelot, que vous allez nous présenter justement, qui a participé à la deuxième édition des trophées bâtiments circulaires. Alors déjà, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter votre cabinet ?
Bien sûr, donc je m'appelle Clément Durosel, effectivement, et on a fondé WAO Architecture il y a un peu plus de 10 ans maintenant, il y a 11 ans, avec Mine Nguyen. Donc c'est une agence d'architecture parisienne. On s'est rencontrés avec mon associé dans un bureau d'études, en fait un bureau d'ingénieurs, qui nous a donné un goût particulier pour les matériaux, la fabrication et le rapport entre les deux.
Donc déjà, c'était avant la création, ça.
Ça, c'était avant la création, oui. Après, on a créé donc WAO, et on travaille sur pas mal de projets de rénovation urbaine, de rénovation de bâtiments, d'adaptation aux données et aux sujets environnementaux et thermiques actuels. voilà. Et puis, on a assez rapidement après la création fondé en parallèle de l'agence d'architecture un Fab Lab. Donc un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication, un lieu collaboratif, un tiers-lieu collaboratif avec des outils traditionnels de fabrication et des outils numériques.
D'accord.
Voilà. Et dans lequel on a installé nos locaux. Donc on avait le locaux d'architecture, de conception réellement de projet. Et puis après, l'atelier qui était partagé avec d'autres personnes, mais qui nous servait aussi à prototyper, à faire des maquettes, à expérimenter la mise en forme des matériaux au service du projet d'architecture.
Donc deux lieux en un, au final, donc qui ont servi pour le projet Javelot. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ?
Alors, juste en introduction, en fait, ce lieu de fabrication, c'est un lieu de fabrication numérique et la fabrication numérique a tendance à créer pas mal de déchets, pas mal de chutes. Et cette question-là nous a donné le goût ou l'intérêt pour comment utiliser au mieux les matériaux, leur donner une seconde vie, voire une troisième vie dans la création d'espaces architecturaux.
Donc récupérer les chutes, en fait. Par exemple.
Récupérer les chutes, les comprendre, les mesurer, les calibrer, etc., pour pouvoir les réadapter dans un usage, réemployé.
D'accord. Et alors, c'est comme ça que du coup, vous avez pensé, enfin, imaginé plutôt le projet Javelot avec ce réemploi des matériaux, puisque ça a été au centre de la réflexion architecturale des premières phases de conception.
Absolument. Donc le projet Javelot, donc qui a été réalisé pour le compte de la RIVP et par l'entreprise Carré Bâtiment. Depuis le début, la question du réemploi a été au centre du projet. Donc déjà le réemploi de l'espace, de l'espace construit comme gisement architectural. Et puis après, le réemploi, on a essayé aussi de questionner la question de la programmation transitoire des espaces. Pendant le mois qui a précédé le chantier, il y a une résidence d'artistes, un lieu culturel temporaire, en fait, avec un peintre et un sculpteur qui ont pu exposer leur œuvre. Et donc, en fait, qui questionne cette question de la ville en transition et des espaces disponibles pour des lieux support, disons. Mmh. Et puis après, la question plus fondamentale dans le projet de construction, le réemploi des matériaux. Donc le réemploi des matériaux, il a été fait pendant nos études, au tout début du projet, où on a fait des diagnostics pour savoir qu'est-ce qui était récupérable, quels éléments avaient de la valeur et pouvaient être maintenus sur place ou transformés pour pouvoir servir dans le projet futur. Et donc il y a des éléments in fine, il y a eu trois directions de réemploi de matériaux. Il y a des éléments qui ont été réemployés sur site. Par exemple, on a récupéré des éléments de façade, des grands panneaux vitrés.
Oui, les vitrages existants, c'est ça.
des vitrages existants, etc. Exactement, et on les a déplacés à l'intérieur pour faire des cloisons vitrées. C'est des grands panneaux vitrés. On n'aurait sûrement pas pu financer en fait des cloisons aussi grandes.
Oui, est-ce qu'elles sont immenses, vraiment. J'ai vu la photo.
Et ça, c'est grâce au réemploi, donc in situ. Après, il y a des éléments qui ont été réemployés à l'extérieur par d'autres personnes. Il y a des gens qui sont venus sur site, notamment un escalier. Ils sont venus récupérer, on leur a déposé soigneusement en fait l'escalier métallique existant. Et ils ont pu le prendre et le remonter dans un cadre privé pour donner une seconde vie à cet escalier.
D'accord.
Et puis après, la troisième direction du réemploi de matériaux, c'est un réemploi donc ex situ qui a été un ancien parquet en bois en fait le gisement a été trouvé par l'entreprise qui avait le marché et ce parquet a été façonné donc poncé, recalibré, etc. pour créer toute la façade, tout le bardage en bois de la façade et donc le parquet était voilà mis pour générer ce rythme de bardage à claire-voie sur la façade du bâtiment.
Donc un réemploi haute sourcée pour la façade de ce bâtiment. Voilà. Vous l'avez dit, hein, le réemploi des matériaux est vraiment au centre de la réflexion de ce projet. Un projet, alors, un bâtiment même, qui a été construit à l'origine par un architecte, Michel Aulet, et qui a eu plusieurs vies, justement.
Oui, donc Michel Aulet était en charge de l'architecte hein, qui a créé la dalle des Olympiades, donc qui est un contexte très particulier de l'architecture des années 60. Et il se trouve que le bâtiment lui-même est conçu pour avoir plusieurs vies, c'est-à-dire que sa surface au sol ou sa surface sur dalle ne tient que sur 6 poteaux. Avec des poteaux qui sont décalés des façades, qui laissent une liberté, c'est vraiment le concept du plan libre, qui laisse une liberté totale aux façades et aux cloisonnements intérieurs. Et ce bâtiment, avant, en tout cas cette pagode, parce qu'il y en a plusieurs sur la dalle des Olympiades, a eu plein de vies, les unes après les autres. Ça a été tour à tour un salon de thé, ça a été un restaurant. Il y a dû sûrement depuis les années 60 avoir encore d'autres histoires dans ce bâtiment. Et aujourd'hui, ça a été transformé donc en une bricothèque et une régie de quartier qui s'appelle Tela 13 qui a pris les lieux.
Vous pouvez nous expliquer ce qu'est une bricothèque pour ceux qui ne connaissent
pas. Alors, une bricothèque, c'est un espace aussi relatif libre-service ou libre-service un peu surveillé où des gens du quartier, donc de la dalle des Olympiades ou plus loin, peuvent venir pour bricoler, donc pour réparer une lampe, pour réparer une chaise, ont des outils à disposition et un accompagnement pour pouvoir réparer des choses pour leur plaisir ou pour leurs besoins.
D'accord. Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce qu'il y a eu des contraintes pour justement cette réhabilitation ?
Alors, il y a dans les projets d'architecture et en particulier dans la réhabilitation et rénovation des bâtiments, il y a toujours plein de contraintes et de surprises qui viennent les unes après les autres, mais qui sont aussi génératrices de projets et donc qui sont très intéressantes en soi. Dans ce cadre-là, il y avait la contrainte de la dalle. En fait, c'est un lieu qui est relativement dur d'accès, donc ça, c'est plus la complexité qu'a eu l'entreprise pour fabriquer faire la rénovation. Et puis après, pour ce qui est si on revient au thème, la thématique du réemploi de matériaux, aujourd'hui, les choses sont en train de bouger, heureusement, sont en train de bouger assez vite, mais il y a des contraintes techniques, en fait, qui sont propres aux matériaux employés. En fait, quand on fait du neuf avec des matériaux neufs, on sait d'où viennent les matériaux, il y a une traçabilité, il y a un processus industriel qui existe depuis longtemps, qui a fait ses preuves. Voilà. Aujourd'hui, le réemploi de matériaux, tout est un peu à inventer.
Oui.
C'est-à-dire comment savoir quand on prend un bout de bois
d'où il vient,
comment il est, d'où il vient, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il n'est pas solide.
En fait, sa fiche technique,
En gros, sa fiche technique, voilà. Comment connaître la fiche technique du produit si on n'en a pas?
Et ça, du coup, c'est un...
Et donc du coup, c'est une des complexités du réemploi. Aujourd'hui, plein de personnes dans les différents domaines, assurantiels, bureaux de contrôle, juridiques, architectes, ingénieurs, se penchent sur le sujet. Donc ça évolue. Et puis après, il y a plusieurs cas de figure. Sur le projet Javelot, il y a eu un cas de figure, comment réutiliser le verre en cloison intérieure, comme on en a parlé tout à l'heure. Il se trouve que le verre avait la façade, le verre n'était pas très vieux, il avait une dizaine d'années, et donc on a pu, en fait, dans la feuillure du vitrage, donc à l'intérieur d'un double vitrage, en fait, si on regarde dans la bande entre les deux vitrages, il y a des informations qui sont écrites. Et ces informations étaient suffisamment détaillées pour qu'on arrive à contacter le fournisseur d'origine et qu'il puisse nous ressortir un équivalent de fiche technique qui permettait de catégoriser le verre. Donc on savait ce qu'on avait entre les mains et on pouvait le réemployer en intérieur. Après, il y a des cas de figure où on ne sait pas du tout ce qu'on a, par exemple pour le bois, et en fait c'est en interprétant les règles, les textes juridiques qui régissent la construction, où on peut trouver des équivalences. Il se trouvait que l'épaisseur du bois et son essence permettaient de justifier son usage.
Donc il y a toute une recherche à faire, en fait, qui est assez, voilà. assez complexe au final.
Assez complexe, qui parfois est juste une mesure simple des éléments avec des outils rudimentaires, je veux dire avec un mètre par exemple, qui permettent d'être conforme à la réglementation. Et parfois il y a des recherches qui sont beaucoup plus poussées à mener, qui sont de l'ordre, qui nécessitent un laboratoire par exemple pour poinçonner un matériau pour vérifier sa résistance au poinçonnement, ou faire des bancs d'essai, voilà, faire passer les matériaux sur des bancs d'essai pour savoir encore une fois leur résistance et aux différentes contraintes et normes applicables.
D'accord. Dernière question, qu'en est-il de la réversibilité du bâtiment?
Donc la réversibilité, comme on en parlait tout à l'heure, le fait qu'il soit justement avec une conception plan libre, fait qu'il est très adaptable. Mmh. On peut enlever les cloisons, les déplacer, enlever la façade, le bâtiment, sa structure reste totalement autonome. Puis après, nous, dans notre projet, on a essayé de poursuivre cette réversibilité avec un mode constructif qui soit avec des assemblages mécaniques, en l'occurrence de la construction bois, qui permet en fait d'avoir des éléments individuels les uns les autres, qu'on vient assembler avec sans colle, sans système qui soit complexe à déposer. Et donc voilà, il suffit de dévisser et on peut très rapidement dévisser l'intégralité du mur à ossature bois pour pouvoir ou le déplacer ou lui donner une nouvelle forme.
Ah oui,
ou alors
voilà. D'accord. Eh bien, c'est un beau projet, en tout cas, le projet Javelot dans le 13e arrondissement de Paris. Merci infiniment, Clément Durosel, de nous l'avoir présenté.
Eh bien, merci beaucoup à vous.
La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.